Son esprit est indomptable. Même s'il arrivait à la France ou à l'Angleterre d'être perdu, j'ai l'impression qu'il continuerait la croisade lui-même avec une bande de volontaires. Journal de Sir John Colville, à propos de Winston Churchill, le 19 mai 1940.
Les fenêtres de l'histoire, avec Philippe Faureau.
Il est des moments où des circonstances et un homme se rencontrent. C'est indéniablement le cas entre la Seconde Guerre mondiale et Winston Churchill en mai 1940. Sir Winston Churchill est né le 30 novembre 1874 à Blenheim, dans une très grande famille de la noblesse britannique descendant du duc de Marlborough. Il fait des études à l'école militaire de Sandhurst à partir de 1893, dont il sort 20e sur 130 officiers. Correspondant de guerre pendant la guerre des Boers, il se lance ensuite dans la politique et devient député conservateur le 1er octobre 1900. 4 ans plus tard, Churchill décide de passer au Parti libéral au nom de l'attachement au libre-échange que les conservateurs voulaient combattre. En 1910, il obtient son premier très grand poste ministériel, le ministère de l'Intérieur, puis l'année suivante devient premier lord de l'amirauté, c'est-à-dire chef de la marine britannique, et c'est à ce poste qu'il se trouve au moment du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Il est un des responsables, mais pas le seul, de l'échec des Dardanelles en 1915. Ceci l'amène donc à démissionner, et l'homme, au lieu de se retrancher paisiblement dans le Parlement britannique, décide d'aller combattre en tant qu'officier sur le front français, où il va rester entre novembre 1915 et mai 1916. Puis, le 17 juillet 1917, il retrouve un poste de ministre dans le gouvernement de Lloyd George, ministre des munitions. Puis, en 1921, il devient ministre des colonies. S'il est battu aux élections de 1922, il retrouve un siège au Parlement, mais cette fois-ci à nouveau du côté des conservateurs, car il estime que le parti Tory est désormais le rempart qui est le plus efficace contre le danger bolchevique. Et il accuse, d'ailleurs de manière un peu maligne, les travaillistes d'être vraiment des rouges livrés à Moscou. En 1924, il obtient un poste dans le gouvernement Baldwin en devenant chancelier de l'échiquier, c'est-à-dire ministre des affaires économiques et des finances. Il le reconnaîtra lui-même avec un humour qui le caractérise tout au long de sa vie publique. Il fut sans doute le pire ministre des finances de toute l'histoire britannique. En tout cas, il n'anticipa en rien les effets de la crise de 1929. Après 10 ans de traversée du désert, où au Parlement il ne cessa de régulièrement mettre en garde contre les dangers de l'Allemagne nazie, le goût de la poudre à l'été 1939 et le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale va lui permettre de retrouver le gouvernement, puisque le 3 juin 1939, il est nommé premier lord de l'amirauté. Winston is back. Dans le cadre de la drôle de guerre, qui ne fut d'ailleurs sans doute drôle que pour ceux qui ne l'ont pas faite, Churchill fait preuve d'activité. À la tête de la marine britannique, il s'emploie à stimuler, il réussit à obtenir d'ailleurs quelques succès sur la mer, et donc il veut véritablement apparaître comme quelqu'un prêt à combattre l'Allemagne nazie jusqu'au bout. Mais il faut bien le dire, il reste relativement isolé. Un sondage de décembre 1939 indique que 64% des Britanniques approuvent la politique attentiste sur le plan militaire de Chamberlain. Et seulement 30% estiment favorable l'idée de Churchill Premier ministre. Seulement, au printemps 1940, la situation change. En avril, la campagne de Norvège est une réussite pour les Allemands. L'opposition aux communes monte de plus en plus, contre un chambellan vieillissant, atteint d'un cancer, et qui finalement apparaît comme un homme qui ne maîtrise pas véritablement la situation. Contesté au Parlement, Chamberlain décide de démissionner le 9 mai. Le 10 mai, Churchill est nommé Premier ministre. Or, c'est ce 10 mai que les Allemands lancent leur grande offensive à l'ouest, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, et qui va permettre la percée de Sedan le 13 mai. À vrai dire, la possibilité de voir un autre homme que Churchill était encore faisable en ce 10 mai 1940. Lord Halifax, qui était le secrétaire d'État au Foreign Office, aurait pu faire office de Premier ministre. Mais l'opposition travailliste ne voulait absolument pas l'entendre parler. Aussi, le roi George VI appela Churchill donc pour lui confier cette tâche. Dans son discours du 13 mai, Churchill plante le décor. Il explique au peuple britannique qu'il n'a à lui offrir que du sang, de la peine, de la sueur et des larmes, mais, au bout du compte, la victoire. Il compose un cabinet de guerre, composé de Chamberlain, qui est encore le chef du Parti conservateur, d'Halifax, que Chamberlain a voulu maintenir aux affaires étrangères et que Churchill en a accepté le principe. Mais par contre, on retrouve deux leaders travaillistes, Clement Attlee, chef du Labour Party, et Arthur Greenwood. D'autre part, entrent dans le cabinet deux hommes qui vont régulièrement être proches de Churchill, Anthony Eden à la guerre et le libéral Archibald Sinclair, ministre de l'air. Vu la situation dégradée en France sur le plan militaire, Churchill se rend sur le territoire français le 16 mai, puis le 22 mai. Il se rend compte à ce moment-là de la gravité de la situation. Le front français est percé, il n'y a pas véritablement de réserve qui permette de faire et d'envisager une contre-attaque. Et puis surtout, le gros des troupes franco-britanniques sont de plus en plus encerclées en Belgique et dans une nasse qui se referme à Dunkerque. Le 26 mai débute l'opération Dynamo qui vise à rembarquer les soldats britanniques et français coincés dans la poche de Dunkerque. Or, il faut bien dire que c'est sans doute entre le 26 et le 28 mai que Churchill a été le plus en danger. Effectivement, au sein du monde politique britannique, et en particulier au sein du parti Tory, du parti conservateur, il y a eu à ce moment-là la tentation de négocier avec Hitler. En effet, la situation militaire était catastrophique, l'armée britannique détruite avec un matériel abandonné, et donc n'était-il pas plus raisonnable de proposer à Berlin de négocier? Et pendant deux jours, il y a eu une espèce d'incertitude. Ce qui sauve la position de Churchill, qui se refuse à la négociation, c'est la réussite de l'évacuation de Dunkerque. En effet, 200 000 Britanniques, environ 120 000 Français, sont évacués. C'est-à-dire que sur le plan humain, l'opération Dynamo est une réussite. L'armée britannique n'est pas totalement détruite dans le cadre de l'opération Dynamo. Il suffit alors pour Churchill d'essayer de galvaniser la population britannique. C'est ce qu'il fait lors d'un grand discours aux communes le 4 juin 1940. Même s'il faut des années, même si nous sommes seuls, nous ne fléchirons pas, nous ne faillirons pas. Nous marcherons jusqu'au bout. Nous nous battrons en France, nous nous battrons sur les mers et sur les océans. Nous nous battrons dans les airs avec une force et une confiance croissantes. Nous défendrons notre île, quel qu'en soit le prix. Nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons sur les aérodromes, nous nous battrons dans les champs et dans les rues, nous nous battrons dans les collines, nous ne nous rendrons jamais. Et même si ce que je ne crois pas un instant possible, notre île ou une grande partie de notre île, devait être subjugué et affamé, alors notre empire, au-delà des mers, armé et gardé par la flotte britannique, continuerait le combat, jusqu'à ce qu'un jour, à l'heure que Dieu choisira, le nouveau monde, de toute sa force et sa puissance, s'avance pour secourir et libérer l'ancien. Vous aurez remarqué la fougue de ce Premier ministre qui, décidément, a décidé de continuer le combat. Certes, la France va être amenée à l'armistice du 22 juin. Le maréchal Pétain, étant nommé président du Conseil, a offert la possibilité aux Allemands de négocier un armistice. Mais Churchill fait preuve d'abnégation et fait preuve de volonté. D'abord, il accueille Charles de Gaulle, qui lui aussi ne croit pas que la guerre se terminera avec la seule bataille de France. Mais le 3 juillet 1940, Churchill donne également au monde un signe de sa volonté infranchissable. C'est le bombardement de Merzel-Kébir. Il a eu l'obligation, par peur de voir les bateaux français tomber dans les mains allemandes et italiennes, de bombarder la flotte de l'ancien allié. Aussi, quand après un mois où Hitler a espéré que la Grande-Bretagne n'engage des négociations, le Führer fait un discours au Reichstag le 19 juillet 1940 au sujet de propositions de paix, il est désormais clair, avec le refus évident du gouvernement britannique, que la guerre, qui s'annonçait relativement courte en juin 1940, est appelée encore à durer. Churchill a été l'homme de la situation.